Pour la 9e édition de Fête du Bruit à Landerneau, Alternante FM est une nouvelle fois partie à la rencontre de Cédric Fautrel, attaché de presse, afin de tirer un premier bilan en cette toute fin de festival. Alors en cette fin de festival, sur le 3e jour, Fête du Bruit à Landerneau, édition 2017, je suis en compagnie de Cédric Fautrel, attaché de presse sur le festival, mais aussi organisateur de concerts et animateur sur Radio Mutine à Brest. Cédric, salut à toi. Pourrais-tu nous faire un premier bilan provisoire pour cette 9e édition ?
Salut Alexandre et bonjour à tous les auditeurs d'Alternante. Et ben, premier bilan, un bilan que positif. On savait déjà avant d'ouvrir que ça devait bien se passer parce qu'on était complet depuis 3 semaines. Après, il fallait que tout se passe bien en termes d'orga, que les artistes soient bien présents, qu'il n'y ait pas de problème majeur et même mineur. Et bon, rien à signaler, c'est blanc. Donc oui, c'est pour l'instant un bilan extrêmement positif.
Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner par rapport aux années précédentes, peut-être en termes de festivaliers, de nombre ?
Ah ben c'était un record cette année parce que la jauge est atteinte tous les soirs. Elle était maximale à 18 000 billets en vente. On a vendu 3 fois 18 000, soit 54 000 billets, ce qui représente 5 000 billets de plus que l'année dernière.
C'est énorme. Alors comment on s'adapte justement à ce surplus de festivaliers ? Comment on s'adapte en amont ?
On s'adapte pas parce que le site permet d'accueillir ces 54 000 spectateurs. Évidemment, on sait qu'on va être complet, donc on travaille un peu plus l'accueil, les sanitaires, les espaces de restauration, de détente, parce que forcément, c'est quand même brasser beaucoup de gens sur un parc urbain. Mais voilà, on s'y attendait, donc on a eu le temps de s'y préparer tranquillement.
Est-ce que par exemple on pourrait envisager l'installation d'une deuxième scène vu le nombre de festivaliers, vu la production et la richesse artistique dont bénéficie Fête du Bruit, est-ce que cela pourrait être potentiellement faisable ?
Si ça se faisait, ça voudrait dire qu'il y aurait une nouvelle modification du site avec un agrandissement en profondeur qui n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il y a des bâtiments qui n'appartiennent pas à Régisène ou à la ville, qui sont privatisés. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas étendre le site. C'est vrai que s'il y avait peut-être un jour une possibilité de rachat, j'en sais rien, peut-être que ça s'étendrait. Et peut-être, en effet, que si le site était plus grand, on aurait une deuxième scène à l'opposé de la scène principale. Mais non, ce n'est pas du tout possible pour l'instant et donc pas prévu.
Ça, c'est un peu dans le prolongement de la troisième question que j'allais te poser. Est-ce qu'au fond, il y a quand même une envie un peu tentante de pouvoir agrandir le site d'une certaine manière ?
Je ne suis pas persuadé parce que au niveau de l'équipe, en fait, il y a plutôt une volonté de rester gros chez les petits que de devenir petit chez les gros. Parce que dès qu'on passe une certaine stade en termes de capacité, on a des nouvelles contraintes qui vont se greffer. Plus de pression aussi de la part des groupes parce qu'il y a plus d'enjeux. Jouer devant 18 000 spectateurs, c'est déjà pas mal. Mais si on se retrouve à jouer devant 30 000, là, il y a encore plus d'enjeux. Donc, les prods sont encore plus exigeantes avec les organisateurs. On perd le côté plaisir. Et donc, non, je pense qu'il n'y a pas du tout l'envie de s'agrandir.
Finalement, est-ce que aussi l'âme de Fête du Bruit, c'est le cœur de la ville à Landerneau également, par rapport à d'autres sites un peu plus délocalisés, on va dire, en campagne, comme d'autres festivals bretons ?
Ah, il y a ça. C'est le fait d'avoir un festival urbain, d'avoir des gens qui ont des passes 3 jours, qui peuvent rentrer, sortir, aller se balader, aller voir l'expo Picasso, fonds d'art contemporain, des choses comme ça. Et puis aussi, la singularité, c'est de se dire, on peut proposer une affiche exceptionnelle avec des têtes d'affiche, avec des artistes en date unique, en effet, sur un festival à capacité encore humaine.
Question production maintenant. On n'a pas encore eu de chance cette année avec les Cranberries qui nous sont passés sous le nez. Cranberries pour 2018 ?
Je pense qu'on va laisser tomber Cranberries. Non, je sais pas. C'est pas moi le producteur, c'est pas moi le. Je suis pas la programmation. Mais je crois que, l'année dernière, ils étaient venus, ils ont pas joué, repartis parce que malade. Cette année, ils nous annulent suffisamment tôt, mais on se méfie un peu. On avait déjà anticipé la chose. On sent qu'il y a une prise de risque quand même avec ce genre de groupe. Et nous, si on peut s'éviter ce genre d'angoisse, on va plutôt le faire. Surtout l'année prochaine, ce sera les 10 ans. Donc on a vraiment envie de soigner la programmation. Donc je crois qu'il y a déjà des pistes qui sont lancées et qui sont à l'étude.
On y reviendra dans quelques secondes sur cette programmation et cette 10e année l'année prochaine. Comment on gère justement la relation aux managers et aux artistes dans ce cas pour pouvoir permettre un remplacement assez rapide ?
Comme je le disais, pour ce cas-là, c'était anticipé. C'est-à-dire que Texas, c'est un groupe qui était sur les tablettes pour l'année prochaine, pour la 10e édition. Donc les contacts étaient déjà pris. C'est un groupe déjà qu'on essaye de faire depuis pas mal d'années, en fait. Et à chaque fois, ça collait pas. Et on les a sollicités sur 2010. Et on nous a dit, bon, à voir. Par contre, ça aurait pu être possible sur cette année. Sauf que nous, la prog a été déjà bouclée. Donc on a gardé comme ça, un peu en tête, mis dans un coin. Et voilà, quand il y a eu l'annulation officielle de Cranberries, on a foncé sur l'option Texas.
Lorsque on est dans la phase de sélection des artistes, donc ça commence en général aux alentours du mois de septembre, on cogite déjà pour l'année d'après, ou dans certains cas, comme tu viens de le dire, on a déjà des bons contacts pour passer directement sur des artistes dont on est sûr qu'ils viendront. Est-ce que ça peut arriver parfois qu'on ait le choix entre deux artistes, ou est-ce que tout est fait, quand on fait le choix des artistes, d'attendre la réponse avant d'aller chercher un autre artiste par exemple, ou est-ce qu'on envoie des propositions à un petit paquet d'artistes et après on sélectionne?
Ah, c'est vrai que ça, c'est une question qu'il faudrait plus poser aux programmateurs qui passent derrière nous, là, d'ailleurs. Mais en réalité, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les groupes qu'on a absolument envie d'avoir sur le festival. Et s'il y a une opportunité, c'est finalement eux qui décideront de quel jour ils peuvent passer ou pas, s'il y a une possibilité. Et c'est vrai que, là, du coup, la programmation sera un peu réfléchie par rapport à eux. Et il y a une autre phase de groupe qui sont, où là, on a plus de choix. Et donc du coup on met des options. Et la programmation finale se fait en fait. Après c'est un peu comme une recette de cuisine. On essaye d'avoir une certaine homogénéité sur jour par jour. Et si voilà, ben, si on a une grosse tête d'affiche qu'on a envie d'avoir qui est plutôt rock, qui se confirme, on va sans doute essayer de monter un plateau plutôt rock. Si c'est quelque chose de plus folk ou chanson, ce sera différent.
En fait, est-ce que parfois également en fonction de la programmation, en fonction des genres musicaux, si par exemple on a 4 artistes rock, est-ce que si on a le choix encore entre un artiste rock ou un artiste d'un autre style musical, on va peut-être plutôt prendre l'autre artiste pour avoir un équilibre en fait entre les différents genres? Est-ce que ça peut être un critère de sélection ou pas du tout dans les choix?
Non, si, c'est évidemment, on va pas non plus se dire bah tiens, on a qu'une scène, on peut mettre 6 groupes, 7 groupes, on va faire 7 groupes de rock. Non, ça, on essaye comme d'avoir une petite variété, mais c'est vrai qu'on essaye comme d'avoir une couleur générale. C'est-à-dire que cette année, le vendredi était comme plus reggae, chanson, assez festif. Samedi, c'était très rock. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est un peu plus partagé, mais avec, et surtout avoir l'idée que les groupes parlent aux gens. C'est vrai que nous, on est assez attachés à voir ces groupes qui ont vraiment flirté avec les sommets dans les années 90, fin 80, 90, début 2000. Et nous, on aime parce que c'est des groupes qui nous ont bercés quand on était, quand on avait 20 ans de moins. Ces groupes-là, on les adorait, c'était quand même inaccessible, on rêvait de les voir en concert. Bon, ben là, de pouvoir les inviter 20 ans après, chez nous à Landerneau, c'est ça l'objectif. Et donc, c'est vrai qu'on est sur cette vague de groupes qui peuvent être très rock, pop rock, qui peuvent être parfois reggae encore pas trop. C'est vrai que l'électro il y a 20 ans, il n'y avait pas les grosses têtes d'affiche, donc on aime faire de l'électro, mais c'est plus sur de la découverte pour nous, c'est pas le cœur de cible.
Justement, c'est un des secrets de fabrication d'arriver à réunir les générations sur un festival comme Fête du Bruit.
C'est ça, c'est un mélange entre les groupes dont les parents ont les albums chez eux ou connaissent et ont écouté ça il y a 20 ans, 25 ans, et puis les groupes plus actuels comme Big Flo et Oli par exemple, ou je dis Avner, enfin des choses qui vont toucher peut-être des générations un peu plus jeunes, ou Naman, ou Bigaranx. Et donc du coup on a souvent, c'est clair aujourd'hui par exemple, on a les enfants qui vont voir Big Flo et Oli, et les parents viennent voir Offspring ou Cypress Hill.
Comme tu le disais il y a quelques minutes, l'année prochaine ce seront les 10 ans de Fête du Bruit. Comment vous pensez marquer en fait cet événement?
C'est une grande question. On se la pose un peu tous les jours. On est en pleine réflexion. On sait qu'on va être attendu. On sait que cette année c'est quand même assez exceptionnel en termes d'affiches et qu'il va vraiment falloir être costaud pour pouvoir proposer un truc vraiment remarquable. Il y a aussi tout le côté déco qui va sans doute être réfléchi et pensé par rapport à ces 10 ans. Pour l'instant, franchement, il n'y a rien de vraiment concret. Il n'y a rien de concret sur ces 10 ans. On réfléchit. Je pense qu'on va vraiment essayer d'avoir un groupe, un artiste auquel on court après depuis X années. Je pense que s'il devait avoir une priorité artistique, ce serait vraiment sur un faut aussi que ce soit un plaisir pour les organisateurs, parce que c'est pas juste une entreprise Régisène qui organise le festival, c'est aussi des centaines de bénévoles, c'est des intermittents qui travaillent avec nous depuis 9 ans, c'est toujours les mêmes équipes, c'est des gens qui ont grandi avec nous, qui ont écouté les mêmes musiques, qui aiment les mêmes choses. Je pense que si on pouvait arriver à faire une programmation qui contente autant le public que l'équipe organisatrice et aussi les bénévoles et aussi tous ces gens qui travaillent, qui se donnent là, sur le festival, je pense que là ce serait vraiment l'objectif. Donc il y a quand même des artistes qui rentrent dans cette catégorie là qui sont durs à attraper, mais maintenant nous depuis 2-3 ans on se dit que plus rien ne nous fait peur. L'année dernière on avait Dionne Ward en date unique, cette année on avait Marilyn Manson en date unique, donc de faire venir un groupe en date unique, ça ne nous fait pas peur, deux pourquoi pas.
Ces gros artistes dont tu parles, les contacts sont pris ?
C'est forcément des contacts qui sont déjà en place avec des agents, même plus forcément que des agents français. On aura tendance directement à les contacter, les managements anglais ou américains.
Très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu maintenant de tes projets à titre personnel ? Je pense notamment peut-être à Radio Mutine ou alors l'organisation de concerts. T'en es où ?
La Radio Mutine, c'est une histoire qui roule. Hein. Ça fait 20 ans que je fais de la radio, donc on reste sur ces fameuses radios associatives nées au début des années 80 et qui sont un peu toujours dans un mode survie. Et en termes de concerts, pas mal de petites choses cette année à la rentrée, avec notamment une belle soirée qu'on organise le 29 octobre, c'est un dimanche. Ça va parler peut-être aux plus anciens, aux amateurs de blues rock. Il faut savoir que dans les années 80, fin 70, début 80, il y avait un festival qui s'appelait le festival Elixir, qui est un petit peu le grand-père de tous les festivals d'été, qui a existé pendant 5-6 ans, ici en Finistère Nord, qui a accueilli toutes les pointures, des Clash à Depeche Mode, à Midnight Oil, j'en passe, c'est des meilleurs, mais c'était entre 79 et 86. Et il se trouve que dans l'équipe organisatrice de ce festival, il y a pas mal de gens qui ont par la suite continué l'aventure, dont des gens qui sont actuellement à la tête des Francofolies de La Rochelle, à la tête du Printemps de Bourges, à la tête de festivals comme ça. Et on a décidé de rendre un hommage cette année en consacrant une journée et une soirée entière à ce festival, avec la diffusion d'un documentaire en avant-première qui sera ensuite diffusé sur une chaîne nationale, la sortie d'un bouquin sur ce festival, et puis un concert avec un Wilco Johnson, en fait, qui est fondateur de Dr. Feelgood, qui est un groupe de blues rock, qui lui a quitté le groupe Dr. Feelgood au tout début des années 80, et il a joué sous son nom dans le cadre du festival Elixir en 81. C'est un gars qui a un parcours incroyable, qui a failli mourir, et il fait partie des 3% des gens qui survivent à un cancer du pancréas alors qu'il était en phase terminale, ça vous donne une idée. Il a ensuite joué le rôle du bourreau dans la saison 2 de Game of Thrones. Il a sorti un album avec Roger Daltrey des Who. Il fait plein de choses et on le fait venir en date unique, en fait, dans le cadre de cette soirée-là, avec plein de surprises à côté. Ça va être forcément très très fort en émotion, parce que ça va marquer pour nous, ça va rassembler plein de gens, des gens qui ont connu Elixir, des gens qui n'ont pas connu mais qui l'ont un peu comme exemple, des gens qui ça va être, pour moi c'est une date hyper importante. Et puis pas mal d'autres concerts qu'on prépare, des choses avec Thérapie Taxi, dans un café-concert qu'on occupe pas mal à Brest, et voilà.
Bien. Une dernière question, est-ce qu'il y a des artistes du moment que tu pourrais un peu nous conseiller là pour nos auditeurs et nos auditrices, les artistes locaux ou sur tes goûts personnels?
De tout, alors moi il y a un groupe suisse, j'ai complètement craqué, ils viennent de sortir un deuxième album sur un label qui s'appelle ils viennent de sortir un deuxième album, il s'appelle Adieu Gary Cooper, c'est une sorte de Bachung Wave, donc très influencé Bachung, période pizza, début années 80, avec un côté Suicide aussi, avec une boîte à rythme, des guitares assez incisives, ça a un côté un peu rétro, mais moi ça me parle beaucoup, les textes sont à entendre à plusieurs niveaux, c'est vraiment un chouette groupe, et l'album est excellent, il s'appelle Outsider, il est sorti chez Casbah Records, donc ça c'est vraiment le gros coup de cœur du moment. J'aime beaucoup évidemment un groupe belge aussi qu'on fait nous assez souvent en concert, qui s'appelle, ça y est je vais avoir un trou, mon dieu, la honte, je ne me rappelle plus, merde, oh. Si astronaute, cosmonaute. Ah, oh, je m'en rappelle plus.
Là, on refera le montage, donc ouais, si tu l'as entre temps, je le mentionnerai.
Au niveau local, ben moi je fais aussi un peu de management avec des groupes. Et là, on prépare la sortie du deuxième album de Red Ghost Black, qui avait joué ici à Fête du Bruit il y a 3 ans, je crois, qui est en cours de mixage, là, avec une pointure aux États-Unis. Donc, on est en train de préparer la sortie. Ça sera au premier trimestre 2018. Donc, voilà, on est assez impatients. Et j'ai mes vieux copains de Craftman Club qui sortent un nouvel album à l'automne aussi, qui sera au 3 quarts en français. Ça va un petit peu changer la chose.
D'accord, ok. Alors, merci bien pour toutes ces informations. Cédric, on te remercie également pour nous avoir permis Alternant de venir... encore cette année. Nous remercions aussi Carole qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, chargée de production sur le festival, et on se dit à très très bientôt sur les ondes Alternantes.
C'est ta combienième édition avec Alternantes à la Fête du Bruit?
C'est la 3e édition cette année, c'est toujours un grand grand plaisir, on espère que ça va durer encore très longtemps.
Voilà, bah à l'année prochaine, merci.
À l'année prochaine, merci Cédric, salut, ciao. Rejection!